Je vous salue de la part de l'église du CEP Marseille. On a de la joie à pouvoir venir de temps en temps vous saluer et puis partager le culte avec vous. Donc c'est avec beaucoup de joie que je suis là ce matin. Et ce matin, je vous propose de lire un passage dans la première épître à Timothée. Mais avant de la lire, j'aimerais l'introduire et rappeler peut-être à certains d'entre nous, moi je n'y étais pas, mais le 25 mai 1961, si certains se rappellent, on n'est plus beaucoup, vous êtes plus beaucoup, John Kennedy, le président des États-Unis, annonce le projet fou d'envoyer des hommes sur la Lune et qu'ils en reviennent vivants. Et finalement, c'est en 1969 que ce projet va se réaliser. Après des années de recherche, de développement, les Américains, en 1969, vont envoyer une première équipe sur la Lune. Et c'est Neil Armstrong, vous connaissez certainement cette phrase, qui dira « c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité ». Le huitième homme à avoir marché sur la Lune, il s'appelait James Irwin. Et lui aussi a fait une déclaration, moins connue que celle de Neil Armstrong. Et voilà ce qu'il a dit. Le plus important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais le fait que Dieu ait marché sur la Terre. Et c'est une vraie citation, hein, vraiment. James Irwin était un disciple de Jésus-Christ. L'objectif amour est bien plus grand que l'objectif lune. C'était un projet fou, cet objectif lune. Mais l'objectif amour que Paul va révéler à Timothée dans son épître est bien plus grand et dépasse bien plus d'espérance que cette prouesse technique des hommes qui ont marché sur la lune. Donc je vous propose dans quelques instants de pouvoir lire ces premières lignes qui vont parler de l'objectif amour. S'il y a une chose qu'on doit retenir pour cette semaine, c'est « Seigneur, donne-moi de garder les yeux fixés sur l'objectif amour ». Je vais expliquer, on va lire ensemble ce que cela signifie. Mais on peut s'en souvenir pour notre semaine. Objectif amour. Les épîtres sont écrites par Paul et il a du temps pour écrire. Il a du temps non pas parce qu'il est à la retraite ou parce qu'il est dans le repos, il a du temps parce qu'il est en prison. Il est en prison et depuis sa prison, il ne voit pas les murs de la prison, mais il voit l'évangile qui continue d'avancer. Et il n'est pas découragé, humainement probablement, mais par le Saint-Esprit, il n'est pas découragé. Et il va écrire à Timothée, son jeune compagnon, avec qui ils ont vécu de nombreuses aventures. Maintenant, Timothée est seul. Seul en responsabilité à l'église d'Éphèse. Et seul, Dieu lui confie la charge de nommer des anciens et de fonder cette église d'Éphèse. Son grand frère Paul n'est plus là et Paul lui écrit en lui donnant des instructions. C'est intéressant parce que Timothée, ce n'était pas forcément celui qui avait le profil le plus charismatique. Ce n'était pas celui qui était le plus volubile en parole, il était plutôt timide, a priori, de ce que l'on en comprend. Mais Dieu utilise ceux qui sont faibles pour manifester sa puissance. Et c'est bien l'œuvre de Dieu dont on parle et pas l'œuvre de Timothée. Cette jeune église d'Éphèse, elle est menacée. Elle est toute jeune, mais elle est menacée par de faux enseignants. Des personnes qui viennent prêcher autre chose que l'évangile. J'en reparlerai puisque ça fait partie de notre passage. Dans ces obstacles à l'amour, la mauvaise connaissance, mais aussi une liste de catégories d'indignité dans laquelle nous nous retrouverons tous sont mentionnées par Paul. Et avant de le lire, j'aimerais le commenter. Dans la liste que nous allons lire tout à l'heure, des obstacles à l'amour, il y a un mot grec qui... Donc c'est arsenokoites en grec, peu importe. Littéralement celui qui couche avec un homme. Et c'est traduit dans plusieurs versions comme homosexualité. Et vous verrez dans la version second 21 qu'on lira, c'est ce qui est écrit. Paul n'écrit pas ces choses pour empêcher les gens d'entrer dans le royaume de Dieu, mais bien au contraire, pour les y inviter. Et alors que nous lirons cette liste, nous verrons que Paul ne méprisait pas les personnes. Au contraire, il se dit être lui-même le plus indigne, le plus grand des pécheurs. lorsqu'il parle de l'homosexualité, il parle aussi du mensonge. Et nous pouvons tous, dans cette liste, probablement nous retrouver indignes. Et Dieu dit, il y a des plans meilleurs. Et c'est ça que Paul est en train de dire à Timothée. Alors, je vous propose qu'on puisse lire ce texte, qu'on puisse se laisser toucher par ce que la parole de Dieu veut nous dire. Objectif amour pour cette semaine. Donc, je le prends dans la version second 21 et on va lire les tout premiers versets, des versets 1 à 11 de la lettre à Timothée. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur. À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux tel qu'il m'a été confié. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est une parole bonne, sûre, solide, une nourriture dont nous avons besoin. Et nous te remercions du privilège de pouvoir la lire, de pouvoir la comprendre. Et nous te demandons que par ton esprit, tu touches nos cœurs ce matin, par ce que tu veux nous dire, comme nous te l'avons déjà demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Paul écrit à Timothée. Est-ce que vous pouvez ressentir l'amour qu'il y a dans ces premiers mots ? À Timothée, mon enfant véritable dans la foi. Je ne sais pas si beaucoup de personnes vous parlent de cette manière. À toi, mon enfant véritable dans la foi. Paul aime Timothée comme son enfant et lui souhaite le meilleur. Que la grâce, la compassion et la paix te soient données. Si nous réfléchissons dans nos propres vies, nous avons certainement eu des personnes qui, comme Timothée, nous ont aimés, comme Paul a aimé Timothée. Essayez d'y réfléchir dans votre vie. Quelles sont ces personnes que Dieu a placées sur votre chemin ? Et c'est certainement le cas. Et qui vous a aimé de la part de Dieu ? De qui avez-vous reçu ? Comment est-ce que Dieu s'est révélé à vous ? On pourrait prendre le temps de partager nos histoires, on ne va pas pouvoir le faire maintenant. Mais voici les mots d'amour de Dieu pour toi ce matin, que la grâce, la compassion et la paix te soient données. Est-ce qu'on peut se souhaiter les uns les autres, nous qui nous aimons, ces mots d'amour ? Que la grâce, la compassion et la paix te soient données. Grâce, compassion et paix. Je vous propose qu'on prenne quelques instants pour se le dire entre nous. À notre voisin, est-ce qu'on peut se dire que la grâce, la compassion et la paix te soient données ? On est des bien-aimés. Alors disons-nous que la grâce, la compassion et la paix nous soient données. On peut s'aimer les uns les autres de cette manière. Vous voyez, c'est la manière dont Dieu nous aime. Il nous dit que la grâce, la compassion et la paix nous soient données. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. En fait, au cœur de ces premiers mots, il y a la transmission. Si tu es là aujourd'hui c'est probablement, certainement, parce que Dieu a transmis à quelqu'un l'amour qu'il a reçu pour te le transmettre à toi. Et nous sommes aussi impliqués dans cette transmission. Lorsque nous venons de dire à notre voisin que la grâce, la compassion et la paix te soient données, on est en train de transmettre l'amour de Dieu que nous avons reçu. Je me souviens, lorsque j'étais adolescent, j'avais presque 17 ans, ma grand-mère est décédée alors que je partais dans un voyage au Maroc. Et ma grand-mère est décédée pas seule, avec le Seigneur. Et je l'ai visitée juste avant de partir en voyage, et je savais que c'était la fin, les médecins avaient dit que c'était la fin, et j'étais bouleversé de visiter ma grand-mère et de voir qu'elle était dans la paix. Cette grâce, cette compassion, cette paix, elle l'avait, parce qu'elle savait que Jésus était avec elle, même dans ces terribles heures où la maladie avait pris le dessus. Moi, 17 ans, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, ma grand-mère, elle connaît quelque chose. Elle connaît Dieu d'une manière que je ne connais pas. Lorsque je suis arrivé au sud de l'Espagne, j'ai appelé d'une cabine téléphonique, il n'y avait pas de portable à l'époque, et j'ai eu mon grand-père au téléphone qui m'annonçait qu'elle décédait ce jour-là. Et je voulais rentrer, je voulais repartir et pas faire le voyage pour être à leur côté pour les obsèques. Et mon grand-père m'a dit, non, non, fais ton voyage, et quand tu reviendras, 3 semaines après, on prendra du temps ensemble. Donc je l'ai écouté, ce soir-là, j'ai donné mon cœur à Jésus. Ça a changé ma vie pour toujours, et 3 semaines après, j'ai rejoint mon grand-père. Il était dans le deuil, il venait de perdre son épouse, ma grand-mère. Et pendant une semaine, on a marché, on est allé sur la tombe de ma grand-mère, mais surtout, mon grand-père m'a transmis des vérités fondamentales, son expérience avec Dieu. Et on a parlé de sujets qui ont été absolument fondamentaux pour moi. Voilà ce qu'il a fait avec moi, il m'a transmis. Et ça nous explique la mission de Timothée. Paul confie à Timothée de transmettre. Il lui confie d'enseigner. Et c'est ça qu'il a à faire dans cette église d'Éphèse. Et si vous avez noté au verset 5, Paul dit quelque chose de fondamental. Dans cette transmission, l'objectif, ce n'est pas la connaissance. L'objectif, ce n'est pas la puissance. L'objectif, ce n'est pas l'organisation, une grande église. Un bâtiment, non. L'objectif, c'est l'amour. De quel amour parle-t-on ? On parle de l'amour de Dieu et de notre réponse qui est l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Et voilà ce que Paul dit à Timothée. L'objectif de ces instructions, ce que je t'ai laissé et ce que tu devras enseigner, l'objectif, c'est un amour. Point de suspension, on le verra après. Il y a quelques années, nous avons eu l'occasion de voyager en Angleterre avec ma famille. Et je me souviens d'avoir rencontré un homme, il s'appelle Craig. Et c'était un homme qui aimait Dieu, j'en connais beaucoup. Mais quand vous passiez un peu de temps avec lui, très rapidement, vous vous sentiez aimé par lui. C'était quelqu'un qui débordait de l'amour de Dieu. La manière dont il vous écoutait, la manière dont il s'intéressait à votre vie, vous vous sentiez aimé par lui. Son attention, ses gestes, son cœur débordé de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes comme ça aussi. J'en suis sûr et je suis sûr qu'il y en a parmi nous ce matin. Mais voilà ce que les instructions de Dieu sont censées produire dans nos vies, d'être des personnes qui aimons de la part de Dieu. Mais il y a un mais. L'amour est bien souvent terni, menacé par 2 grands problèmes que nous avons lus dans ces quelques versets. Et je dois bien le reconnaître, je suis concerné, vous êtes concerné par ces 2 obstacles. Alors le premier obstacle, Paul parle d'autres doctrines, de fables, de généalogies sans fin, de discours creux, d'un mauvais usage de la loi. Je pourrais résumer toutes ces choses par une mauvaise connaissance, une mauvaise compréhension. C'est un obstacle à l'amour. Je me souviens dans ma propre vie, quand j'étais jeune chrétien, j'avais mal compris le rôle du Saint-Esprit dans ma vie. Et finalement, j'étais toujours impressionné par les actions des hommes et des femmes que l'on pouvait lire dans la Bible ou dans l'histoire de l'Église. Et je me dis, j'aimerais bien être comme eux. Souvenez-vous dans l'histoire de Daniel, les amis de Daniel, ils se retrouvent face à la fournaise et Nebuchadnezzar leur dit, soit vous vous agenouillez devant moi, soit vous brûlez. Et on voit les amis qui disent, nous ne savons pas ce que Dieu va faire maintenant, mais nous savons qu'il agira d'une manière ou d'une autre. Et donc, nous ne nous agenouillerons pas devant toi. Ils sont prêts à ce que Dieu permette qu'ils meurent dans cette fournaise, mais ils s'attendent aussi à ce que Dieu puisse faire autre chose. Et moi, en lisant ces choses, je me disais, waouh, quel courage! Si c'était moi, c'est sûr, je n'y arriverais pas. Mais c'est une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu que nous avons célébrée ce matin. La grâce de Dieu, elle nous sauve, elle nous pardonne, nous l'avons célébrée, c'est notre joie. Mais la grâce de Dieu va plus loin que ça. Elle nous transforme. La grâce, c'est le don de Dieu qui nous donne la vie éternelle avec lui en nous donnant son esprit en nous. Et les forces que nous avons, ce ne sont pas les nôtres, ce sont celles que Dieu donne. Et ça change tout de bien comprendre ça. C'est parce que le Saint-Esprit, la vie de Dieu, habite en moi que je peux être rendu capable de faire des choses que je n'aurais pas été capable de faire, comme les amis de Daniel. Seigneur, tu nous donneras le courage le moment venu. Seigneur, tu nous donneras l'amour dont nous avons besoin. Ce n'est pas nos propres forces, c'est la vie de Dieu en nous. Donc vous voyez qu'un enseignement, et pour ça on a besoin de lire, d'étudier, de plonger dans cette parole qui nous ouvre à la vérité concernant qui est Dieu et qui nous sommes en Dieu. Un deuxième obstacle qu'on trouve dans ce texte, c'est cette fameuse liste que j'ai commentée au tout début. Les malfaiteurs, les rebelles, les impies, les pécheurs, etc. Ça aussi, c'est un obstacle à l'amour. Et je me souviens aussi, jeune chrétien, et les deux choses sont liées, je me battais dans le secret, personne ne savait, et j'aurais eu honte, contre des choses honteuses. Dans ma propre vie, vivre avec des pensées pures, c'était quelque chose que je n'arrivais pas à faire, encore une fois, avec mes propres forces. Le péché vient s'insinuer dans nos vies, et c'est un obstacle à l'amour. Et l'accusateur vient nous accuser et dit « Tu as vu comment tu te comportes ? Tu as vu ce que tu penses ? Tu n'es pas digne d'aller vers Dieu, pas digne d'aimer tes frères et sœurs. » Voilà un obstacle à l'amour. De mauvaises actions et des mauvais choix. Et nous sommes tous concernés. C'est pour ça que 1 Jean 1,9, nous l'avons lu ce matin ensemble. Nous pouvons confesser nos péchés parce qu'effectivement, c'est la réalité de nos vies. Mais nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus soumis à la puissance du péché. Là encore, ce n'est pas nous, ce n'est pas nos propres forces. J'ai essayé de faire face à la tentation avec mes propres forces. Ça marche un peu, mais pas longtemps. C'est bien Dieu en nous qui nous rend capables que nos vies soient transformées et que nous puissions faire face à la tentation et au péché. Donc Paul transmet face à ces deux obstacles qui sont une réalité. Nous ne pensons pas toujours bien et nous ne nous comportons pas toujours bien. Mais Paul transmet à Timothée, et je vais terminer par ça, il transmet trois clés, trois C, vous allez voir, que nous pourrons garder pour cette semaine, qu'on trouve au verset 5 et que je vais commenter. Paul dit à Timothée, le but de ces instructions, c'est l'amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors pour le retenir, on va dire trois C, un cœur pur, une bonne conscience, et puis foi sincère, on va dire croire, pour s'en souvenir, ça fait trois C. Donc cœur, conscience et croire. Et Paul dit, le but de toutes ces instructions, c'est que l'amour coule dans vos vies en provenant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors regardons-les, parce que c'est ça qui nous permet de dépasser les obstacles à l'amour dont Paul parle. Un cœur pur. Le cœur, c'est là où notre motivation profonde se trouve. Ce que vous voyez de moi, c'est l'extérieur, mais seul Dieu connaît le cœur, les motivations profondes. C'est en cultivant un cœur pur que l'amour jaillit dans nos cœurs. Là où nos motivations profondes prennent racine. La Bible nous dit, là où est ton trésor, là est ton cœur. Qu'est-ce qui remplit nos cœurs ? Qu'est-ce qui remplit ton cœur ? Nos cœurs peuvent abriter des idoles. Nos cœurs peuvent habiter des préoccupations, des fausses croyances, des motivations qui ne laissent pas place à la pureté. Et on peut remplir dans cette semaine, dès demain, nos cœurs de plein de choses, de motivations, de pensées qui ne vont pas nourrir un cœur pur et qui vont donc empêcher l'amour, qui est l'objectif d'un cœur pur. Cette pureté, seul le Saint-Esprit peut l'apporter dans nos vies. Le premier C, c'est donc un cœur rempli du Saint-Esprit. Romains 5, 5 dit « Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Et on peut prier pour cette semaine, « Seigneur, déverse ton amour dans mon cœur par ton Esprit. » Qu'on puisse cette semaine se souvenir de cette prière. « Seigneur, donne-moi un cœur pur. Permets-moi d'identifier les mauvaises motivations. Personne ne peut le voir, mais toi, tu connais mes motivations. » L'orgueil, le pouvoir, le fait de chercher le regard des autres pour que je sois validé. Garde-moi de ça, je sais que je suis déjà aimé par toi. Qu'on puisse cultiver cette semaine cette dépendance au Saint-Esprit pour qu'il remplisse nos cœurs et qu'on puisse le prier. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Je veux laisser mes motivations être transformées par toi. Deuxième C, une bonne conscience. Comment avoir une bonne conscience ? En Actes 24, 16, Paul dit « S'efforcer d'avoir constamment une conscience sans reproche ». Ça veut dire que c'est possible. Et Paul nous dit aussi que ça implique un effort de notre part. Paul s'efforce d'avoir une bonne conscience. Comment alors avoir une bonne conscience ? Par la repentance et par une vie sanctifiée. Ce sont les deux bénéfices de l'œuvre de la croix. On les a chantés ensemble et on les a lus dans la parole. L'œuvre de Christ nous pardonne, mais elle nous rend aussi capables d'agir avec une bonne conscience. Jésus a posé un jour une question intéressante. Il a dit « Qui aime le plus ?» Qui aime le plus ? Vous vous rappelez ce qu'il a répondu ? Celui à qui on a beaucoup pardonné. L'amour coule d'une bonne conscience. C'est parce que nous laissons Dieu venir nettoyer notre conscience qu'alors nous pouvons être reconnaissants et que l'amour déborde. 1 Jean 1,9, on l'a lu ce matin. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Cette semaine, nous serons au travail peut-être, à la maison, avec nos amis. Rappelons-nous une bonne conscience. Seigneur, je ne peux pas obtenir une bonne conscience par mes propres forces, mais toi, tu as accompli tout ce qui était nécessaire pour purifier ma conscience. Mais ça veut dire que nous devons être sérieux à regarder notre propre vie et ne pas laisser des parties de notre vie être loin de la bonne conscience que Dieu veut nous donner. Ça veut dire d'être honnête avec le Saint-Esprit et de dire « Je reconnais que dans ce domaine-là, Seigneur, j'ai péché et je veux confesser pour être pardonné et purifié. » C'est comme ça que l'amour coule dans nos cœurs parce que nous restons dépendants de la grâce de Dieu. Peut-être que ce matin, des personnes sont là et n'ont pas encore expérimenté de pouvoir recevoir cette bonne conscience. Tous les efforts humains ne suffisent pas à ce que notre conscience soit propre devant Dieu. personne d'entre nous pourra se présenter devant Dieu au jour du jugement et de dire « Regarde, ma vie, j'ai une bonne conscience, prends-moi avec toi. » Mais Dieu a accompli l'impossible. Ce qui était impossible aux hommes, Dieu l'a rendu possible. Et si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, que nous acceptons que nous étions incapables de nous purifier nous-mêmes, mais que Christ l'a fait pour nous, alors la Bible nous dit, et nous sommes nombreux à pouvoir en témoigner, que nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, et qu'alors nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Et si ce n'est pas encore ton cas ce matin, je veux vraiment t'inviter à le faire, à dire à Dieu comme quand j'avais 17 ans, je reconnais que j'ai besoin de ton pardon, et merci parce que ce pardon, tu l'as accompli en Jésus-Christ. Alors voilà la prière que nous pouvons faire. Seigneur, fais couler ton amour dans nos cœurs par le pardon que tu nous donnes et la bonne conscience que tu nous offres. Troisième C, croire. J'ai oublié bonne conscience, pardonner. Le seul moyen d'avoir une bonne conscience, c'est bien d'aller puiser dans la grâce de Dieu, dans le pardon qu'il nous donne. Troisième C, croire, une foi sincère. Le mot grec qui est utilisé pour foi sincère, c'est une foi sans hypocrisie. Comment avoir une foi sans hypocrisie ? En lisant la parole avec honnêteté, sans hypocrisie, et en laissant le Saint-Esprit briller et éclairer dans chaque coin de nos vies. Galates 5 nous dit « Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est seulement la foi qui agit à travers l'amour. La foi est à la fois un don de Dieu et un muscle que l'on doit exercer et entraîner. Je ne sais pas s'il y en a qui font du sport ici, mais si on veut faire du sport, on a besoin d'entraînement. Si on y va deux fois par an, c'est un peu ce que je fais, alors c'est difficile. Et avec la foi, c'est un peu pareil. C'est à la fois un don de Dieu, mais c'est aussi quelque chose que Dieu nous confie et que l'on doit exercer, que l'on doit entraîner. Nous avons besoin les uns des autres pour cela. Pour que notre foi soit sincère, sans hypocrisie, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nous encourager les uns les autres pour que notre foi soit de plus en plus fondée, soit de plus en plus exercée dans des domaines pratiques de nos vies. Si nous restons chacun dans notre coin, ou si ce n'est que le dimanche matin, notre foi ne sera pas exercée. On a besoin les uns des autres. Par exemple, quand je passe par une difficulté, je peux prendre le téléphone et appeler un frère, une sœur, et dire « Voilà par où je passe, est-ce qu'on peut prier ensemble ?» Ou si je suis tenté dans un certain domaine de pouvoir appeler un frère, une sœur de confiance et de dire « Voilà comment je suis challengé, est-ce qu'on peut prier ensemble ?» Nous devons nous encourager les uns les autres à vivre la foi, une foi sincère, parce que c'est d'elle que coule l'amour, qui est le but de toutes les instructions. Nous avons aussi besoin de temps d'intimité personnelle, pas seulement des uns des autres. Mais nous avons besoin, comme Jésus l'enseigne, d'aller dans notre chambre, de fermer la porte et de prendre le rendez-vous avec Dieu. Dieu nous attend dans ce lieu où nous fermons la porte de notre chambre, dans le lieu secret où nous pouvons rencontrer Dieu dans l'intimité, par la prière, par la louange, par la lecture de la parole. Seigneur, fortifie notre foi dans la lecture de ta parole et dans la prière. C'est la prière que nous pouvons faire pour avoir une foi sincère qui est cultivée. Et nous avons des configurations différentes. Peut-être certains ont des enfants et c'est challengeant de prendre un temps pour lire la Bible. Peut-être certains sont sur des activités professionnelles qui leur prennent du temps. Peut-être d'autres sont dans des soucis de santé. Là encore, il ne s'agit pas seulement de nos forces, mais de dire « Seigneur, aide-moi à cultiver chaque jour ce temps avec toi, pour que ma foi puisse être cultivée, pour que chaque jour je puisse dépendre de toi, de ta présence, de ta parole, et que l'amour grandisse dans ma vie. » Voilà les trois C pour cette semaine, qu'on puisse les garder cette semaine. Un cœur pur, rempli du Saint-Esprit. Une bonne conscience, pardonnés parce que nous avons reconnu notre culpabilité et laissé Dieu nous pardonner. Une foi sincère parce que nous avons cultivé notre intimité avec Dieu. Si nous cultivons ça, nous devons nous en attendre à ce que l'amour coule, à ce que l'amour grandisse et que le but de ces instructions, je le redis, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'organisation, mais c'est l'amour. Si nous cultivons un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère, alors nous pouvons nous en attendre à ce que l'amour de Dieu coule dans nos vies. Et l'enjeu est grand. Vous savez pourquoi ? Jésus a dit, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde saura qui nous envoie, que le monde saura qui est Jésus-Christ. Donc cet objectif amour, il est fondamental dans nos vies et pour cette semaine, alors que nous puissions nous souvenir de cette parole de Paul à Timothée. L'objectif, c'est l'amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est profonde, vraie, elle est riche et elle vient nous rejoindre là où nous sommes. Nous devons confesser, Seigneur, qu'il y a beaucoup d'obstacles à l'amour dans nos vies, comme une mauvaise compréhension, comme un mauvais comportement. Mais merci parce que tu nous fais grâce, tu nous pardonnes et tu nous appelles à toi, tu nous laisses accès à ta parole. Et nous te prions ensemble que cette semaine, nous puissions vivre ces 3 C. Que Seigneur, tu puisses purifier nos cœurs, que nous puissions te dire en début de semaine et chaque jour, en début de chaque journée, remplis cette journée, Seigneur. Je ne veux pas la vivre avec mes propres forces, mais par ton esprit. Et que tu purifies nos cœurs, que tu purifies nos pensées. Nous te prions, Seigneur, que cette semaine, nous puissions garder une bonne conscience parce que nous te laissons agir en nous pour faire face à la tentation. Et si nous tombons ou s'il y a des domaines de nos vies qui sont empêtrés dans le péché, nous voulons reconnaître notre péché pour recevoir ton pardon et ta purification parce que tu es fidèle et juste pour le faire. Seigneur, nous voulons vivre cette semaine en restant attachés à cette foi sincère que nous pouvons puiser dans l'intimité avec toi, dans la lecture de ta parole, dans la prière, dans l'encouragement que nous pouvons nous donner les uns aux autres. Et Seigneur, merci de nous donner tous ces cadeaux et de faire couler en nous ton amour pour que nous puissions nous aimer les uns les autres, mais aussi aimer celles et ceux qui sont autour de nous qui ne te connaissent pas. Nous voulons les aimer de ta part et nous voulons être des transmetteurs, être des canaux de ton amour pour eux. Alors Seigneur, fais couler ton amour dans nos vies. Nous te le demandons avec foi, parce que ta parole nous y encourage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.